Chapitre 21. Lorrain, le duel. Si pour la seconde fois le lecteur veut nous suivre au tribunal révolutionnaire, nous retrouverons Maurice à la même place où nous l'avons déjà vu. Seulement, nous le retrouverons plus pâle et plus agité. Au moment où nous rouvrons la scène sur ce lugubre théâtre où nous entraînent les événements bien plus que notre prédilection, les jurés sont aux opinions, car une cause vient d'être entendue. Deux accusés qui ont déjà, par une de ces insolentes précautions avec lesquelles on raillait les juges à cette époque, fait leur toilette pour l'échafaud, s'entretiennent avec leur défenseur, dont les paroles vagues ressemblent à celles d'un médecin qui désespère de son malade. Le peuple des tribunes était ce jour-là d'une féroce humeur, de cette humeur qui excite la sévérité des jurés. Placés sous la surveillance immédiate des tricoteuses et des faubouriens, les jurés se tiennent mieux, comme l'acteur qui redouble d'énergie devant un public mal disposé. Ainsi, depuis 10 heures du matin, 5 prévenus ont-ils déjà été changés en autant de condamnés par ces mêmes jurés rendus intraitables. Les deux qui se trouvaient alors sur le banc des accusés attendaient donc en ce moment le oui ou le non qui devait ou les rendre à la vie ou les jeter à la mort. Le peuple des assistants, rendu féroce par l'habitude de cette tragédie quotidienne devenue son spectacle favori, le peuple des assistants, disons-nous, les préparait par des interjections à ce moment redoutable. « Ah, tiens, 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 regarde donc le grand !» disait une tricoteuse qui, n'ayant pas de bonnet, portait à son chignon une cocarde tricolore large comme la main. « Tiens, qu'il est pâle, on dirait qu'il est déjà mort !» Le condamné regarda la femme qu'il apostrophait avec un sourire de mépris. « Que dis-tu donc ?» reprit la voisine. « Le voilà qui rit !»« Oui, du bout des dents !» Un faubourien regarda sa montre. « Quelle heure est-il ? » lui demanda son compagnon. « 1h-10 minutes, voilà 3/4 d'heure déjà que ça dure !» Juste comme à Domfron, ville de malheur, arrivé à midi, pendu à 1 heure. Mais regarde donc comme il a un bel habit bleu tirant. C'est un peu agréable pour les pauvres quand on raccourcit les gens bien vêtus. En effet, comme l'avait dit l'exécuteur à la reine, les pauvres héritaient des dépouilles de chaque victime. Ces dépouilles étant portées à la salpêtrière aussitôt après l'exécution pour être distribuées aux indigents. C'est là qu'avaient été envoyés les habits de la reine suppliciée. Maurice écoutait tourbillonner ces paroles sans y prendre garde. Chacun dans ce moment était préoccupé de quelque puissante pensée qui l'isolait. Depuis quelques jours, son cœur ne battait plus qu'à certains moments et par secousses. De temps en temps, la crainte ou l'espérance semblait suspendre la marche de sa vie, et ces oscillations perpétuelles avaient comme brisé la sensibilité dans son cœur pour y substituer l'atonie. Les jurés rentrèrent en séance et, comme on s'y attendait, le président prononça la condamnation des deux prévenus. On les emmena, ils sortirent d'un pas ferme. Tout le monde mourait bien à cette époque. La voix de l'huissier retentit lugubre et sinistre. « Le citoyen accusateur public contre la citoyenne Geneviève Dixmer. » Maurice frissonna de tout son corps et une sueur moite perla sur tout son visage. La petite porte par laquelle entraient les accusés s'ouvrit et Geneviève parut. Elle était vêtue de blanc. Ses cheveux étaient arrangés avec une charmante coquetterie, car elle les avait étagés et bouclés avec art au lieu de les couper, ainsi que faisaient beaucoup de femmes. Sans doute, jusqu'au dernier moment, la pauvre Geneviève voulait paraître belle à celui qui pouvait la voir. Maurice vit Geneviève et il sentit que toutes les forces qu'il avait rassemblées pour cette occasion lui manquaient à la fois. Cependant, il s'attendait à ce coup, puisque depuis 12 jours, il n'avait manqué aucune séance et que 3 fois déjà, le nom de Geneviève, sortant de la bouche de l'accusateur public, avait frappé son oreille. Mais certains désespoirs sont si vastes et si profonds que nul n'en peut sonder l'abîme. Tous ceux qui virent apparaître cette femme, si belle, si naïve, si pâle, poussèrent un cri, les uns de fureur, les autres d'admiration, quelques-uns de pitié. Geneviève reconnut sans doute un cri dans tous ces cris, une voix parmi toutes ces voix, car elle se retourna du côté de Maurice tandis que le président feuilletait le dossier de l'accusé, tout en la regardant de temps en temps en dessous. Du premier coup d'œil, elle vit Maurice, tout enseveli qu'il était sous les bords de son large chapeau. Alors elle se retourna entièrement avec un doux sourire et, avec un geste plus doux encore, elle appuya ses deux mains roses et tremblantes sur ses lèvres et, y déposant toute son âme avec son souffle, elle donna des ailes à ce baiser perdu qu'un seul dans cette foule avait le droit de prendre pour lui. Un murmure d'intérêt parcourut toute la salle. Geneviève, interpellée, se retourna vers ses juges, mais elle s'arrêta au milieu de ce mouvement, et ses yeux dilatés se fixèrent avec une indicible expression de terreur vers un point de la salle. Maurice se haussa vainement sur la pointe des pieds, il ne vit rien, ou plutôt quelque chose de plus important rappela son attention sur la scène, c'est-à-dire sur le tribunal. Fouquier-Tinville avait commencé la lecture de l'acte d'accusation. Cet acte portait que Geneviève d'Ixmer était femme d'un conspirateur acharné que l'on suspectait d'avoir aidé l'ex-chevalier de Maison-Rouge dans les tentatives successives qu'il avait faites pour sauver la reine. D'ailleurs, elle avait été surprise aux genoux de la reine, la suppliant de changer d'habit avec elle et s'offrant de mourir à sa place. Ce fanatisme stupide, disait l'acte d'accusation, méritera sans doute les éloges des contre-révolutionnaires, mais aujourd'hui, ajouta-t-il, tout citoyen français ne doit sa vie qu'à la nation et sait trahir doublement que de la sacrifier aux ennemis de la France. Geneviève, interrogée si elle reconnaissait avoir été, comme l'avaient dit les gendarmes Duchesne et Gilbert, surprise aux genoux de la reine, la suppliant de changer de vêtements avec elle, répondit simplement « Oui ». « Alors, dit le président, racontez-nous votre plan et vos espérances. » Geneviève sourit. « Une femme peut concevoir des espérances, dit-elle, mais une femme ne peut faire un plan dans le genre de celui dont je suis victime. » « Comment vous trouviez-vous là, alors ?»« Parce que je ne m'appartenais pas et que l'on me poussait. »« Qui vous poussait ?» demanda l'accusateur public. « Des gens qui m'avaient menacé de mort si je n'obéissais pas. » Et le regard irrité de la jeune femme alla se fixer de nouveau sur ce point de la salle invisible à Maurice. « Mais pour échapper à cette mort dont on vous menaçait, vous affrontiez la mort qui devait résulter pour vous d'une condamnation. » « Lorsque j'ai cédé, le couteau était sur ma poitrine, tandis que le fer de la guillotine était encore loin de ma tête. Je me suis courbé sous la violence présente. « Pourquoi n'appeliez-vous pas à l'aide? Tout bon citoyen vous eût défendu. »« Hélas, monsieur, répondit Geneviève, avec un accent à la fois si triste et si tendre que le cœur de Maurice se gonfla comme s'il allait éclater. « Hélas, je n'avais plus personne près de moi. » L'attendrissement succédait à l'intérêt, comme l'intérêt avait succédé à la curiosité. Beaucoup de têtes se baissèrent, les unes cachant leurs larmes, les autres les laissant couler librement. Maurice alors aperçut vers sa gauche une tête restée ferme, un visage demeuré inflexible. C'était d'Ixmer, debout, sombre, implacable, et qui ne perdait de vue ni Geneviève ni le tribunal. Le sang afflua aux tempes du jeune homme, la colère monta de son cœur à son front, emplissant tout son être de désirs immodérés de vengeance. Il lança à d'Ixmer un regard chargé d'une haine si électrique, si puissante, que celui-ci, comme attiré par le fluide brûlant, tourna la tête vers son ennemi. Les deux regards se croisèrent comme deux flammes. « Dites-nous les noms de vos instigateurs, » demanda le président. « Il n'y en a qu'un seul, monsieur. Lequel ? Mon mari. Savez-vous où il est ? Oui. Indiquez sa retraite. Il a pu être infâme, mais je ne serai pas lâche. Ce n'est point à moi de dénoncer sa retraite, c'est à vous de la découvrir. » Maurice regarda d'Ixmer. D'Ixmer ne fit pas un mouvement. Une idée traversa la tête du jeune homme, c'était de le dénoncer en se dénonçant soi-même, mais il la comprima. « Non, dit-il, ce n'est pas ainsi qu'il doit mourir. »« Ainsi, vous refusez de guider nos recherches, dit le président. »« Je crois, monsieur, que je ne puis le faire, répondit Geneviève, sans me rendre aussi méprisable aux yeux des autres qu'il l'est aux miens. »« Y a-t-il des témoins ? Demanda le président. »« Il y en a un, répondit l'huissier. Appelez le témoin. » Maximilien Jean Lorrain, glapit l'huissier. Lorrain, s'écria Moriçon, mon Dieu, qu'est-il donc arrivé? Cette scène se passait le jour même de l'arrestation de Lorrain, et Maurice ignorait cette arrestation. Lorrain, murmura Geneviève, en regardant autour d'elle avec une douloureuse inquiétude. Pourquoi le témoin ne répond-il pas à l'appel? Demanda le président. Citoyen président, dit Fouquier-Tinville, sur une dénonciation récente, le témoin a été arrêté à son domicile. On va l'amener à l'instant. Maurice tressaillit. Il y avait un autre témoin plus important, continua Fouquier, mais celui-là, on n'a pas pu le trouver encore. Dixmer se retourna en souriant vers Maurice. Peut-être la même idée qui avait passé dans la tête de l'amant passait-elle à son tour dans la tête du mari. Geneviève pâlit et s'affaissa sur elle-même en poussant un gémissement. En ce moment, Lorrain entra, suivi de deux gendarmes. Après lui, et par la même porte, apparut Simon, qui vint s'asseoir dans le prétoire en habitué de la localité. « Vos noms et prénoms ?» demanda le président. « Maximilien Jean Lorrain. Votre état ?»« Homme libre. » « Tu ne le seras pas longtemps, » dit Simon, en lui montrant le poing. « Êtes-vous parent de la prévenue ?»« Non, mais j'ai l'honneur d'être de ses amis. » « Saviez-vous qu'elle conspira à l'enlèvement de la reine ?»« Comment voulez-vous que je suce cela ?»« Elle pouvait vous l'avoir confié. »« À moi, membre de la section de Thermopyles, allons donc. » « On vous a vu cependant quelquefois avec elle. On a dû m'y voir assez souvent même. Vous la connaissiez pour une aristocrate ? Je la connaissais pour la femme d'un maître tanneur. Son mari n'exerçait pas en réalité l'état sous lequel il se cachait. Cela je l'ignore, son mari n'est pas de mes amis. Parlez-nous de ce mari. Oh, très volontiers, c'est un vilain homme. » « Monsieur Lorrain, » dit Geneviève, « par pitié. » Lorrain continua impassiblement. « Qui a sacrifié sa pauvre femme que vous avez devant les yeux pour satisfaire non pas à ses opinions politiques, mais à ses haines personnelles ? Quoi, je le mets presque aussi bas que Simon. » Dixmer devint livide. Simon voulut parler, mais d'un geste, le président lui imposa silence. « Vous paraissez connaître parfaitement cette histoire, citoyen Lorrain, » dit Fouquier. « Comptez-nous-la. »« Pardon, citoyen Fouquier, » dit Lorrain en se levant, « j'ai dit tout ce que je savais. » Il salua et se rassit. « Citoyen Lorrain, » continua l'accusateur, « il est de ton devoir d'éclairer le tribunal. » « Qu'il s'éclaire avec ce que je viens de dire. Quant à cette pauvre femme, je le répète, elle n'a fait qu'obéir à la violence. Tenez, regardez-la seulement, est-elle taillée en conspiratrice? On l'a forcée de faire ce qu'elle a fait, voilà tout. Tu le crois? J'en suis sûr. Au nom de la loi, dit Fouquier, je requiers que le témoin Lorrain soit traduit devant le tribunal comme prévenu de complicité avec cette femme. » Maurice poussa un gémissement. Geneviève cacha son visage dans ses deux mains. Simon s'écria, dans un transport de joie, « Citoyen accusateur, tu viens de sauver la patrie !» Quant à Lorrain, sans rien répondre, il enjamba la balustrade pour venir s'asseoir près de Geneviève. Il lui prit la main et, la baisant respectueusement, « Bonjour, citoyenne, » dit-il, avec un flegme qui électrisa l'assemblée, « comment vous portez-vous » Et il se rassit sur le banc des accusés. Toute cette scène avait passé comme une vision fantasmagorique devant Maurice, appuyé sur la poignée de son sabre qui ne le quittait pas. Il voyait tomber un à un ses amis dans le gouffre qui ne rend pas ses victimes, et cette image mortelle était pour lui si frappante qu'il se demandait comment lui, le compagnon de ces infortunés, se cramponnait encore au bord du précipice et ne se laissait point aller au vertige qu'il entraînait avec eux. En enjambant la balustrade, Lorrain avait vu la figure sombre et railleuse de Dixmer. Lorsqu'il se fut placé près d'elle, comme nous l'avons dit, Geneviève se pencha à son oreille. « Oh mon Dieu, » dit-elle, « savez-vous que Maurice est là ? Où donc ? Ne regardez pas tout de suite, votre regard pourrait le perdre. Soyez tranquille. Derrière nous, près de la porte. Ah, quelle douleur pour lui, si nous sommes condamnés !» Lorrain regarda la jeune femme avec une tendre compassion. « Nous le serons, » dit-il, « je vous conjure de ne pas en douter. La déception serait trop cruelle si vous aviez l'imprudence d'espérer. »« Oh, mon Dieu, » dit Geneviève, « pauvre ami qui restera seul sur la terre. » Lorrain se retourna alors vers Maurice et Geneviève, n'y pouvant résister, jeta de son côté un regard rapide sur le jeune homme. Maurice avait les yeux fixés sur eux et il appuyait une main sur son cœur. « Il y a un moyen de vous sauver, » dit Lorrain. « Sûr ?» demanda Geneviève, dont les yeux étincelèrent de joie. « Oh, de celui-là, j'en réponds. Ah, si vous me sauviez, Lorrain, comme je vous bénirais !»« Mais ce moyen, » reprit le jeune homme, Geneviève lut une hésitation dans ses yeux. « Vous l'avez donc vu, vous aussi ?» dit-elle. « Oui, je l'ai vu. Voulez-vous être sauvé ? Qu'il descende à son tour dans le fauteuil de fer et vous l'êtes. » Dixmer devina sans doute à l'expression du regard de Lorrain quelles étaient les paroles qu'il prononçait, car il pâlit d'abord, mais bientôt il reprit son calme sombre et son sourire infernal. « C'est impossible, dit Geneviève, je ne pourrai plus le haïr. Dites qu'il connaît votre générosité et qu'il vous brave. Sans doute, car il est sûr de lui, de moi, de nous tous. Geneviève, Geneviève, je suis moins parfait que vous, laissez-moi l'entraîner et qu'il périsse. Non, Lorrain, je vous en conjure, rien de commun avec cet homme, pas même la mort. Il me semble que je serais infidèle à Maurice si je mourais avec Dixmer. Mais vous ne mourrez pas, vous, le moyen de vivre quand il sera mort. Ah, dit Lorrain, que Maurice a raison de vous aimer. Vous êtes un ange, et la patrie des anges est au ciel, pauvre cher Maurice. Cependant Simon, qui ne pouvait entendre ce que disaient les accusés, dévorait du regard leur physionomie à défaut de leurs paroles. « Citoyen gendarme, dit-il, empêche donc les conspirateurs de continuer leur complot contre la République jusque dans le tribunal révolutionnaire. Bon, reprit le gendarme, tu sais bien, citoyen Simon, qu'on ne conspire plus ici, ou que, si l'on conspire, ce n'est point pour longtemps. Il cause, le citoyen, puisque la loi ne défend pas de causer dans la charrette, pourquoi défendrait-on de causer au tribunal ? Ce gendarme, c'était Gilbert, qui, ayant reconnu la prisonnière faite par lui dans le cachot de la reine, témoignait, avec sa probité ordinaire, l'intérêt qu'il ne pouvait s'empêcher d'accorder au courage et au dévouement. Le président avait consulté ses assesseurs. Sur l'invitation de Fouquier-Tinville, il commença les questions. « Accusé Lorrain, demanda-t-il, de quelle nature étaient vos relations avec la citoyenne Dixmer ?»« De quelle nature, citoyen président ?»« Oui. » »« L'amitié la plus pure unissait nos deux cœurs, elle m'aimait en frère et je l'aimais en sœur. »« Citoyen Lorrain, dit Fouquier-Tinville, la rime est mauvaise. » « Comment cela ?» demanda Lorrain. « Sans doute, il y a une S de trop. Coupe, citoyen accusateur, coupe, c'est ton état. » Le visage impassible de Fouquier-Tinville pâlit légèrement à cette terrible plaisanterie. « Et de quel œil ?» demanda le président. « Le citoyen Dixmer voyait-il la liaison d'un homme qui se prétendait républicain avec sa femme ?» « Oh, quant à cela, je ne puis vous le dire, déclarant n'avoir jamais connu le citoyen Dixmer et en être parfaitement satisfait. »« Mais, reprit Fouquier-Tinville, tu ne dis pas que ton ami, le citoyen Maurice Lindet, était entre toi et l'accusé le nœud de cette amitié si pure ?»« Si je ne le dis pas, répondit Lorrain, c'est qu'il me semble que c'est mal de le dire, et je trouve même que vous auriez dû prendre exemple sur moi. » Les citoyens jurés, dit Fouquier-Tinville, apprécieront cette singulière alliance de deux républicains avec une aristocrate, et dans le moment même où cette aristocrate est convaincue du plus noir complot qu'on ait tramé contre la nation. Comment aurais-je su ce complot dont tu parles, citoyen accusateur? Demanda Lorrain, révolté plutôt qu'effrayé de la brutalité de l'argument. Vous connaissiez cette femme, vous étiez son ami, elle vous appelait son frère, vous l'appeliez votre sœur, et vous ne connaissiez pas ses démarches. Est-il donc possible, comme vous l'avez dit vous-même, demanda le président, qu'elle ait perpétré seule l'action qui lui est imputée? Elle ne l'a pas perpétré seule, citoyen Lorrain, en se servant des mots techniques employés par le président, puisqu'elle vous l'a dit, puisque je vous ai dit, et puisque je vous répète que son mari l'y poussait. « Alors, comment ne connais-tu pas le mari ?» dit Fouquier-Tinville, « puisque le mari était uni avec la femme. » Lorrain n'avait qu'à raconter la première disparition de Dixmer. Lorrain n'avait qu'à dire les amours de Geneviève et de Maurice. Lorrain n'avait enfin qu'à faire connaître la façon dont le mari avait enlevé et caché sa femme dans une retraite impénétrable pour se disculper de toute connivence en dissipant toute obscurité. Mais pour cela, il fallait trahir le secret de ses deux amis. Pour cela, il fallait faire rougir Geneviève devant 500 personnes. Lorrain secoua la tête comme pour se dire non à lui-même. « Eh bien, demanda le président, que répondrez-vous au citoyen accusateur ?»« Que sa logique est écrasante, dit Lorrain, et qu'il m'a convaincu d'une chose dont je ne me doutais même pas. »«
Laquelle ?»«
C'est que je suis, à ce qu'il paraît, un des plus affreux conspirateurs qu'on ait encore vu. » Cette déclaration souleva une hilarité universelle. Les jurés eux-mêmes n'y purent tenir, tant ce jeune homme avait prononcé ses paroles avec l'intonation qui leur convenait. Fouquier sentit toute la raillerie, et, comme dans son infatigable persévérance, il en était arrivé à connaître tous les secrets des accusés, aussi bien que les accusés eux-mêmes, il ne put se défendre envers Lorrain d'un sentiment d'admiration compatissante.
« Voyons, dit-il, citoyen Lorrain, parle, défends-toi, le tribunal t'écoutera, car il connaît ton passé est celui d'un brave républicain. »
Simon voulut parler, le président lui fit signe de se taire.
« Parle, citoyen Lorrain, dit-il, nous t'écoutons. »
Lorrain secoua de nouveau la tête.
« Ce silence est un aveu, reprit le président.
« Non pas, dit Lorrain, ce silence est du silence, voilà tout. »
« Encore une fois, dit Fouquier-Tinville, veux-tu parler ?»
Lorrain se retourna vers l'auditoire pour interroger des yeux Maurice sur ce qu'il avait à faire. Maurice ne fit point signe à Lorrain de parler et Lorrain se tut. C'était se condamner soi-même. Ce qui suivit fut d'une exécution rapide. Fouquier résuma son accusation, le président résuma les débats, les jurés allèrent aux voix et rapportèrent un verdict de culpabilité contre Lorrain et Geneviève. Le président les condamna tous les deux à la peine de mort. 2 heures sonnaient à la grande horloge du palais. Le président mit juste autant de temps pour prononcer la condamnation que l'horloge a sonné. Maurice écouta ces deux bruits confondus l'un dans l'autre. Quand la double vibration de la voix et du timbre fut éteinte, ses forces étaient épuisées. Les gendarmes emmenèrent Geneviève et Lorrain, qui lui avait offert son bras. Tous deux saluèrent Maurice d'une façon bien différente. Lorrain souriait, Geneviève, pâle et défaillante, lui envoya un dernier baiser sur ses doigts trempés de larmes. Elle avait conservé l'espoir de vivre jusqu'au dernier moment, et elle pleurait non pas sa vie, mais son amour qui allait s'éteindre avec sa vie. Maurice, à moitié fou, ne répondit point à cet adieu de ses amis. Il se releva, pâle et égaré, du banc sur lequel il s'était affaissé. Ses amis avaient disparu. Il sentit qu'une seule chose vivait encore en lui, c'était la haine qui lui mordait le cœur. Il jeta un dernier regard autour de lui et reconnut Dixmer qui s'en allait avec d'autres spectateurs et qui se baissait pour passer sous la porte cintrée du couloir. Avec la rapidité du ressort qui se détend, Maurice bondit des banquettes en banquettes et parvint à la même porte. Dixmer l'avait déjà franchi, il descendait dans l'obscurité du corridor. Maurice descendit avec lui. Au moment où Dixmer toucha du pied les dalles de la grande salle, Maurice toucha l'épaule de Dixmer de la main. À cette époque, c'était toujours une chose grave que de se sentir touché à l'épaule. Dixmer se retourna et reconnut Maurice.
« Ah, bonjour, citoyen républicain, dit Dixmer, sans témoigner d'autre émotion qu'un tressaillement imperceptible qu'il réprima aussitôt.
« Bonjour, citoyen lâche, répondit Maurice. Vous m'attendiez, n'est-ce pas ?
C'est-à-dire que je ne vous attendais plus, au contraire, répondit Dixmer.
Pourquoi cela ?
Parce que je vous attendais plus tôt.
J'arrive encore trop tôt pour toi, assassin, ajouta Maurice avec une voix, ou plutôt avec un murmure effrayant, car il était le grondement de l'orage amassé dans son cœur, comme son regard en était l'éclair.
« Vous me jetez du feu par les yeux, citoyen, reprit Dixmer, on va nous reconnaître et nous suivre.
Oui, et tu crains d'être arrêté, n'est-ce pas? Tu crains d'être conduit à cet échafaud où tu envoies les autres.
Qu'on nous arrête, tant mieux, car il me semble qu'il manque aujourd'hui un coupable à la justice nationale. » comme il manque un nom sur la liste des gens d'honneur, n'est-ce pas, depuis que votre nom en a disparu. C'est bien, nous reparlerons de tout cela, j'espère, mais en attendant, vous vous êtes vengé, et misérablement vengé sur une femme. Pourquoi, puisque vous m'attendiez quelque part, ne m'attendiez-vous pas chez moi le jour où vous m'avez volé Geneviève? Je croyais que le premier voleur, c'était vous. Allons, pas d'esprit, monsieur, je ne vous en ai jamais connu. Pas de mots, je vous sais plus fort sur l'action que sur la parole. Témoin le jour où vous avez voulu m'assassiner, ce jour-là, le naturel parlait. Et je me suis fait plus d'une fois le reproche de n'avoir point écouté, répondit tranquillement Dixmer. Eh bien, dit Maurice, en frappant sur son sabre, je vous offre une revanche. Demain, si vous voulez, pas aujourd'hui. Pourquoi demain? Ou ce soir? Pourquoi pas tout de suite? Parce que j'ai affaire jusqu'à 5 heures. Encore quelques hideux projets, dit Maurice, encore quelques guet-apens. Ah ça, monsieur Maurice, reprit Dixmer, vous êtes bien peu reconnaissant, en vérité. Comment, pendant 6 mois, je vous ai laissé filer le parfait amour avec ma femme, pendant 6 mois, j'ai respecté vos rendez-vous, laissé passer vos sourires, jamais homme, convenez-en, n'a été aussi peu tigre que moi. C'est-à-dire que tu croyais que je pouvais t'être utile et que tu me ménageais. Sans doute, répondit avec calme Dixmer, qui se dominait autant que s'emportait Maurice. Sans doute, tandis que vous trahissiez votre république et que vous me la vendiez pour un regard de ma femme, pendant que vous vous déshonoriez, vous, par votre trahison, elle, par son adultère, j'étais, moi, le sage et le héros, j'attendais et je triomphais. Horreur, dit Maurice. Oui, n'est-ce pas? Vous appréciez votre conduite, monsieur. Elle est horrible, elle est infâme. Vous trompez, monsieur. La conduite que j'appelle horrible et infâme, c'est celle de l'homme à qui l'honneur d'une femme avait été confié, qui avait juré de garder cet honneur pur et intact et qui, au lieu de tenir son serment, a fait de sa beauté l'amorce honteuse où il a pris le faible cœur. Vous aviez avant toute chose pour devoir sacré de protéger cette femme, monsieur, et au lieu de la protéger, vous l'avez vendue. Ce que j'avais à faire, monsieur, répondit Dixmer, je vais vous le dire. J'avais à sauver mon ami, qui soutenait avec moi une cause sacrée. De même que j'ai sacrifié mes biens à cette cause, je lui ai sacrifié mon honneur. Quant à moi, je me suis complètement oublié, complètement effacé. Je n'ai songé qu'à moi qu'en dernier lieu. Maintenant, plus d'amis, mon ami est mort, poignardé. Maintenant, plus de reine. Ma reine est morte sur l'échafaud. Maintenant, et bien maintenant, je songe à ma vengeance. Dites à votre assassinat. On n'assassine pas une adultère en la frappant, on la punit. Cet adultère, vous le lui avez imposé, donc il était légitime. Vous croyez, fit Dixmer avec un sombre sourire, demander à ses remords si elle croit avoir agi légitimement. Hein, celui qui punit frappe au jour, toi tu ne punis pas, puisqu'en jetant sa tête à la guillotine, tu te caches. Moi, je fuis, moi, je me cache, et où vois-tu cela, pauvre cervelle que tu es? Demanda Dixmer. Est-ce cacher que d'assister à sa condamnation? Est-ce fuir que d'aller jusque dans la salle des morts, lui jeter son dernier adieu? Tu vas la revoir, s'écria Maurice, tu vas lui dire adieu? Allons, répondit Dixmer en haussant les épaules. Décidément, tu n'es pas expert en vengeance, citoyen Maurice. Ainsi, à ma place, tu serais satisfait en abandonnant les événements à leur seule force, les circonstances à leur seul entraînement. Ainsi, par exemple, la femme adultère ayant mérité la mort, du moment où je la punis de mort, je suis quitte envers elle, ou plutôt elle est quitte envers moi? Non, citoyen Maurice, j'ai trouvé mieux que cela, moi. J'ai trouvé un moyen de rendre à cette femme tout le mal qu'elle m'a fait. Elle t'aime, elle va mourir loin de toi. Elle me déteste, elle va me revoir. Tiens, ajouta-t-il en tirant un portefeuille de sa poche. Vois-tu ce portefeuille? Il renferme une carte signée du greffier du palais. Avec cette carte, je puis pénétrer près des condamnés. Eh bien, je pénétrerai près de Geneviève, et je l'appellerai adultère. Je verrai tomber ses cheveux sous la main du bourreau, et tandis que ses cheveux tomberont, elle entendra ma voix qui répétera « adultère ». Je l'accompagnerai jusqu'à la charrette, et quand elle posera le pied sur l'échafaud, le dernier mot qu'elle entendra sera le mot « adultère ». Prends garde, elle n'aura pas la force de supporter tant de lâcheté, elle te dénoncera. Non, dit Dixmer, elle me hait trop pour cela. Si elle avait dû me dénoncer, elle m'eût dénoncé quand ton ami lui en donnait le conseil tout bas. Puisqu'elle ne m'a pas dénoncé pour sauver sa vie, elle ne me dénoncera point pour mourir avec moi, car elle sait bien que si elle me dénonçait, je ferais retarder son supplice d'un jour. Elle sait bien que si elle me dénonçait, j'irais avec elle, non pas seulement jusqu'au bas des degrés du palais, mais encore jusqu'à l'échafaud. Car elle sait bien qu'au lieu de l'abandonner au pied de l'escabeau, je monterai avec elle dans la charrette. Car elle sait bien que tout le long du chemin, je lui répéterai ce mot terrible, adultère, que sur l'échafaud, je le lui répéterai toujours, et qu'au moment où elle tomberait dans l'éternité, l'accusation y tomberait avec elle. Dixmer était effrayant de colère et de haine. Sa main avait saisi la main de Maurice, il la secouait avec une force inconnue au jeune homme, sur lequel un effet contraire s'opérait. À mesure que s'exaltait Dixmer, Maurice se calmait. « Écoute, dit le jeune homme, à cette vengeance il manque une chose. Laquelle ? C'est que tu puisses lui dire, en sortant du tribunal, j'ai rencontré ton amant et je l'ai tué. Au contraire, j'aime mieux lui dire que tu vis et que tout le reste de ta vie, tu souffriras du spectacle de sa mort. « Tu me tueras cependant, dit Maurice, ou, ajouta-t-il, en regardant autour de lui et en se voyant à peu près maître de la position, c'est moi qui te tuerai. » Et, pâle d'émotion, exalté par la colère, sentant sa force doublée de la contrainte qu'il s'était imposée pour entendre Dixmer dérouler jusqu'au bout son terrible projet, il le saisit à la gorge et l'attira à lui tout en marchant à reculons vers un escalier qui conduisait à la berge de la rivière. Au contact de cette main, Dixmer à son tour sentit la haine monter en lui comme une lave. « C'est bien, dit-il, tu n'as pas besoin de me traîner de force, j'irai. »« Viens donc, tu es armé. »« Je le suis. »« Non, précède-moi, mais je t'en préviens, au moindre signe, au moindre geste, je te fends la tête d'un coup de sabre. » »« Oh, tu sais bien que je n'ai pas peur, dit Dixmer, avec ce sourire que la pâleur de ses lèvres rendait si effrayant. »« Peur de mon sabre, non, murmura Maurice, mais peur de perdre ta vengeance. » « Et cependant, ajouta-t-il, maintenant que nous voilà face à face, tu peux lui dire adieu. » En effet, ils étaient arrivés au bord de l'eau, et si le regard pouvait encore les suivre où ils étaient, nul ne pouvait arriver assez à temps pour empêcher le duel d'avoir lieu. D'ailleurs, une égale colère dévorait les deux hommes. Tout en parlant ainsi, ils étaient descendus par le petit escalier qui donne sur la place du palais, et ils avaient gagné le quai à peu près désert. Car comme les condamnations continuaient, attendu qu'il était 2 heures à peine, la foule encombrait le prétoire, les corridors et les cours, et Dixmer paraissait avoir aussi soif du sang de Maurice que Maurice avait soif du sang de Dixmer. Ils s'enfoncèrent alors sous une de ces voûtes qui conduisent des cachots de la conciergerie à la rivière, égout infect aujourd'hui et qui, jadis sanglant, charrièrent plus d'une fois les cadavres loin des oubliettes. Maurice se plaça entre l'eau et Dixmer. Je crois décidément que c'est moi qui te tuerai, Maurice, dit Dixmer, tu trembles trop. Et moi, Dixmer, dit Maurice, en mettant le sabre à la main et en lui fermant avec soin toute retraite, je crois au contraire que c'est moi qui te tuerai, et qui, après t'avoir tué, prendrai dans ton portefeuille le laissez-passer du greffe du palais. Oh, tu as beau boutonner ton habit, va, mon sabre l'ouvrira, je t'en réponds, fut-il d'airain comme les cuirasses antiques. Ce papier, hurla Dixmer, tu le prendras? Oui, dit Maurice, c'est moi qui m'en servirai de ce papier, c'est moi qui, avec ce papier, entrerai près de Geneviève, c'est moi qui m'assierai près d'elle sur la charrette, c'est moi qui murmurerai à son oreille tant qu'elle vivra, je t'aime, et quand tombera sa tête, je t'aimais. Maurice fit un mouvement de la main gauche pour saisir le papier de la main droite et le lancer avec le portefeuille dans la rivière, mais, rapide comme la foudre, tranchant comme une hache, le sabre de Maurice s'abattit sur cette main et la sépara presque entièrement du poignet. Le blessé jeta un cri tout en secouant sa main mutilée et tomba en garde. Alors commença, sous cette voûte perdue et ténébreuse, un combat terrible. Les deux hommes, renfermés dans un espace si étroit que les coups, pour ainsi dire, ne pouvaient s'écarter de la ligne du corps, glissaient sur la dalle humide et se retenaient difficilement aux parois de l'égout. Les attaques se multipliaient en raison de l'impatience des combattants. Dixmer sentait son sang couler et comprenait que ses forces allaient s'en aller avec son sang. Il chargea Maurice avec une telle violence que celui-ci fut obligé de faire un pas en arrière. En rompant, son pied gauche glissa et la pointe du sabre de son ennemi entama sa poitrine. Mais par un mouvement rapide comme la pensée, tout agenouillé qu'il était, il releva la lame avec sa main gauche et tendit la pointe à Dixmer qui, lancé par sa colère, lancé par son mouvement sur un sol incliné, vint tomber sur son sabre et s'enferra lui-même. On entendit une imprécation terrible, puis les deux corps roulèrent jusque hors de la voûte. Un seul se releva, c'était Maurice, Maurice couvert de sang, mais du sang de son ennemi. Il retira son sabre à lui, et à mesure qu'il le retirait, il semblait avec la lame aspirer le reste de vie qui agitait encore d'un frissonnement nerveux les membres de Dixmer. Puis, lorsqu'il se fut bien assuré que celui-ci était mort, il se pencha sur le cadavre, ouvrit l'habit du mort, prit le portefeuille et s'éloigna rapidement. En jetant les yeux sur lui, il vit qu'il ne ferait pas quatre pas dans la rue sans être arrêté. Il était couvert de sang. Il s'approcha du bord de l'eau, se pencha vers le fleuve et y lava ses mains et son habit. Puis il remonta rapidement l'escalier en jetant un dernier regard vers la voûte. Un filet rouge et fumant en sortait et s'avançait ruisselant vers la rivière. Arrivé près du palais, il ouvrit le portefeuille et y trouva le laissez-passer signé du greffier du palais. « Merci, Dieu juste » murmura-t-il. Et il monta rapidement les degrés qui conduisaient à la salle des morts. 3 heures sonnaient.